Bienvenue sur la lecture audio par son auteur du projet Rendre visible, un projet photographique de Antonin Mabille, ou la tentative du photographe de rendre un regard aux malvoyants en sortant de la représentation visible que les voyants se font des personnes atteintes de la vue. Partager l'outil photographique avec les malvoyants pour qu'ils transmettent leur approche du visible afin de le questionner. Ce projet se divise en cinq grandes parties. Cette partie, la lecture dure à peu près une vingtaine de minutes. Première partie, poser un regard photographique sur les personnes malvoyantes. Le photographe capte le visible, il peut à la fois être témoin de son temps car il parvient à rendre des images qui attestent d'un événement, d'une situation, d'une époque. Mais il peut aussi traiter le visible en y apportant une esthétique qui nous détourne du réel. Il y a des photographies dans la presse, la publicité, les médias, dont on ne peut dire ce que l'on veut avant même de procéder à de la retouche d'image. La personne malvoyante est à la fois préservée des détournements de l'image et exclue du rapport au visible dont l'exploitation est omniprésente dans nos sociétés. Ainsi, elle a une autre perception et l'on peut dire qu'elle voit autrement. Voici l'une des premières motivations du projet, rendre visibles ceux qui sont dénués du sens de la vue. L'autre motivation est de confronter les voyants aux non-voyants en proposant une représentation des malvoyants sans leur handicap, afin de questionner le voyant sur son propre rapport au visible. En ayant pour sujet des personnes malvoyantes, le projet n'est évidemment pas de réformer leur handicap en leur rendant la vue ou de développer un sens qu'ils n'ont pas, mais de travailler sur une perception du monde qu'ils possèdent. Deuxième partie, un projet photographique qui se divise en trois parties. Première sous-partie, portrait au quotidien, le rapport au visible. Je veux mener un premier travail qui consiste à représenter des malvoyants de leur quotidien. Pour le voyant, le stéréotype de la personne qu'il nomme souvent aveugle, c'est la canne, le chien et les lunettes noires. Mon but est justement d'aller à contre-courant et de faire des photographies où le handicap est invisible. Je pense notamment aux professions comme musicien, standardiste, kinésithérapeute. Si ces photographies tendraient à représenter une certaine réalité consciemment tronquée, celles-ci seront cependant accompagnées de légendes et de textes afin de manifester que les personnes sur les photographies sont bien malvoyantes. Il y aurait deux axes dans cette série. Une représentation du malvoyant dans sa sphère sociale, dans le cadre de son métier ou d'une activité sportive, associative, et une représentation dans sa sphère privée, c'est-à-dire chez elle ou dans un espace où il ou elle se retrouve seul. Dans la sphère sociale, l'idée est de représenter le malvoyant comme une personne ayant une activité où le visible n'est pas invalidant et comment ils dépassent le visible dans leur activité socio-professionnelle. Dans la sphère privée, c'est une approche plus intimiste qui s'opère. Je veux confronter le rapport que peut avoir la personne malvoyante avec la lumière et le visible. Ce sera le moment d'aborder ce qu'il aimerait voir, ou bien si le visible ne fait pas l'objet de frustration, et comment en parle-t-il? Est-ce une donnée si importante, ou en fait-il abstraction? Est-ce une perception différente de ressentir le soleil sur la peau pour un malvoyant? Deuxième sous-partie, la captation du visible par une personne malvoyante. Dans cette deuxième approche, je veux faire participer directement la personne malvoyante en lui demandant d'utiliser un appareil photographique. Dans le dispositif, je prêterai un appareil argentique automatique ou fournirai un jetable. C'est bien le malvoyant qui sera l'auteur de la photographie. Je n'agirai qu'au niveau de la sélection. Le résultat dépendra de ma rencontre et de mon rapport avec cette personne. Cela peut être photographier quelque chose ou quelqu'un que la personne aimerait partager avec les voyants. Photographier ce qui est pour elle le visible, en d'autres termes, son visible. Comme le malvoyant par définition ne peut voir ou bien voir, il y aurait dans cette deuxième série photographique une place importante de l'écrit. En effet, le malvoyant dans cette initiative de montrer un visible au voyant, qui lui-même ne peut percevoir, ajouterait une description de ce qu'il a capté. Ce qui m'intéresse, c'est de confronter le voyant à la perception du malvoyant et comment le voyant est presque esclave de son champ visuel. Petit 3, portrait esthétique des personnes malvoyantes et de leur regard. Puisque la photographie retient une fraction de seconde, elle a le pouvoir de déformer la réalité et donc de mentir. On peut faire léviter quelqu'un en le capturant pendant un saut, prendre une photographie de Times Square à New York en pose longue et ainsi effacer la foule. Ce que je veux, c'est réaliser des portraits de personnes malvoyantes en train de nous regarder dans les yeux pour déstabiliser et questionner le voyant. Rendre visible et rendre voyant par le biais de la photographie ceux qui sont privés de la vue. Ce serait donc un traitement esthétique assumé où je joue sur la vacuité du visible puisqu'on prête à la photographie la capacité de capter le réel. Je veux capter de l'irréel pour questionner le médium photographique et ainsi la perception que nous avons des personnes malvoyantes. Le non-voyant, par la spécificité du procédé photographique, apparaîtra comme voyant. Je veux donner l'illusion que le malvoyant nous regarde. La série se composerait également de mon autoportrait yeux fermés, comme pour inciter à voir autrement. Troisième partie, l'idée de départ du projet. C'est en rassurant mes enfants un jour sur le fait que les adultes aussi ont des peurs que la question s'est posée. Papa, de quoi as-tu peur? C'est alors tout simplement que j'ai dévoilé mon angoisse de perdre la vue. Car depuis mon enfance, je suis entouré de parents, artistes peintres, professeurs en école d'art, ainsi dire que cela ne fut pas difficile d'être très vite attiré par le dessin, la photographie, le cinéma. Professionnellement, je me suis tourné vers le métier de monteur, qui a ajouté à mon travail créatif une partie sonore indispensable à la création de produits audiovisuels et cinématographiques. Je me suis orienté vers la photographie car c'est un médium qui peut se pratiquer seul et satisfaire dans un premier temps ma soif d'image, et dans un second temps questionner mon obsession pour le visible. La photographie a le pouvoir de figer l'espace et le temps. Quoi de plus direct que de partir à la rencontre des personnes malvoyantes pour questionner le visible et répondre à l'angoisse de l'invisible qui m'habite? Quatrième partie, les choix de la prise de vue. Première sous-partie, l'argentique en noir et blanc. L'émulsion sur la pellicule est de la matière physique. Lorsque la lumière transperce la complexité de l'émulsion, c'est comme un sculpteur travaillant un bas-relief. La lumière, suivant son intensité, grave la surface chimique avec des niveaux de profondeur variables. Si nous pouvions rétrécir notre taille humaine à 17 cm de hauteur devant un négatif de 24 mm par 36 mm, nous pourrions ressentir le bas-relief de la pellicule, comme le voyant devant une carte panoramique en relief ou des insignes en braille. L'argentique n'a aucun rapport avec les capteurs numériques qui échantillonnent et interprètent la réalité en la faisant rentrer dans des alvéoles de pixels lumineux et colorés. Plus on agrandira un fichier numérique, plus on atteindra au quadrillage dégradé pour finir sur un damier de carrés rectilignes. À l'inverse, si l'on observe l'émulsion argentique au microscope, on aura plus affaire à une forme picturale et aléatoire comme sur les tableaux des pointillistes. Il y a quelque chose de plus physique et organique dans la photographie argentique. La plupart des malvoyants ont une sensibilité aux couleurs beaucoup plus réduite qu'à la lumière. Les bâtonnets de la rétine sont plus réceptifs que les cônes, ainsi cela fait sens en termes de photographie de privilégier pour moi le noir et blanc. D'autre part, traditionnellement, on prête au noir et blanc la spécificité de capter la lumière. Dans les portraits, l'œil capte plus la lumière dans les impressions en noir et blanc. On a coutume en photographie de dire que le regard qui prend la lumière en noir et blanc montre le reflet de l'âme. Cette lumière qui révèle le regard du malvoyant est ce que je veux développer dans ce projet. Enfin, ce qui est très poétique avec l'argentique est le procédé qui s'opère pour révéler l'image captée. Après la prise de vue, il faut révéler et figer l'impression de la lumière sur l'émulsion grâce à différents produits et la présence importante de l'eau. Ensuite, dans une chambre plongée dans le noir complet, la lumière de l'agrandisseur et l'eau transportant la chimie va donner la vie à l'image captée. Tout cela paraît grandiloquent mais prend tout son sens dans le choix de l'argentique et du noir et blanc pour ce projet. Deuxième sous-partie. Lumière naturelle et dispositif particulier pour les portraits posés. Le projet est le rendu sous la forme photographique de ma rencontre avec des malvoyants. L'approche se veut réaliste et tente à faire partager un regard neutre et plus sensible. La majeure partie des photographies seront réalisées avec la lumière naturelle de l'environnement. Mais pour la représentation sous la forme de portrait, je vais plutôt chercher à systématiser une installation de type studio, à savoir un éclairage soulignant le regard et un fond noir en arrière-plan. Cinquième partie, la fabrication du projet. Première sous-partie, en amont, la préparation, la prise de contact. Le travail préparatoire du projet consiste principalement à prendre contact avec des personnes malvoyantes qui accepteraient d'être photographiées et de photographier. La recherche de ces personnes se fait grâce à mon entourage personnel, le contact de différentes associations et institutions étant en lien avec des personnes malvoyantes. Afin de pouvoir photographier ce que je veux rendre dans ce projet, il faut que j'obtienne le consentement des personnes à l'image, mais aussi les autorisations des lieux où je vais faire les photographies. Je pense à certains espaces privés comme les entreprises. Deuxième sous-partie, la rencontre, échange, enregistrement, prise de vue. Au moment de la rencontre, je vais utiliser un micro pour enregistrer à la fois des questions que je vais poser aux personnes photographiées, mais aussi les ambiances qui caractérisent l'environnement autour de nous. En effet, l'un des sens les plus développés pour les malvoyants étant l'ouïe, je ne conçois pas d'exclure une partie du projet en audio. Je tiendrai aussi un carnet pour noter des réflexions et des idées issues de ces échanges. Pour la plupart des photographies, je vais privilégier un objectif 35 mm qui me permettra d'être suffisamment proche des personnes tout en les contextualisant. Il y aura un instant spécifique où la personne malvoyante prendra une photographie. J'utiliserai donc un jetable automatique noir et blanc que je prêterai dont la focale est habituellement 28 mm. Enfin, pour la réalisation des portraits studio, j'utiliserai un éclairage et un fond noir pour l'arrière-plan et un objectif 50 ou 135 mm. Troisième sous-partie, la sélection, l'édition, le choix des images et l'impression. Une fois la prise de vue terminée, il faut tout assembler, opérer la sélection sur les images qui vont être tirées à l'agrandisseur, classer, légender et mettre de côté. Essayer des mises en forme, des retouches et tester des séries. Voir quelles photos mises ensemble créent une lecture différente si elles sont seules ou accompagnées et ou légendées. Essayer un ordre chronologique ou thématique. Sixième partie, la mise en forme du projet. Cette section projette ma vision du projet sous la forme d'une exposition et d'un livre. Cependant, je n'exclus pas une réflexion plus vaste sur un médium audible et tactile dans un second temps. Première sous-partie, sous la forme d'une exposition. Idéalement, si j'imagine la déambulation d'un visiteur, cela commence par un couloir plongé dans l'obscurité la plus totale, avec pour repère une simple bande lumineuse comme celle qui délimite les marches d'une salle de cinéma, et un revêtement au sol de surface tactile pour aveugles ou malvoyants. Ensuite, le visiteur entre dans une première pièce et découvre les photographies qui ont été prises par les malvoyants. Celles-ci sont accompagnées de légendes et d'explications venant soit de l'auteur de la prise de vue, ou bien issues de mes rencontres et dialogues avec l'auteur. Une deuxième pièce distincte présente des malvoyants dans leur quotidien. On voit un musicien, un kinésithérapeute, un écrivain. Chacun de ces portraits en situation est accompagné d'extraits de dialogues échangés au cours des rencontres faites avec les personnes photographiées, dont les sujets tournent autour de la situation de malvoyants dans leur sphère sociale et professionnelle. Une troisième pièce présente les malvoyants dans leur sphère intime, le lieu où ils se retrouvent seuls pour aborder le sujet du rapport personnel au visible et à la lumière. Une pièce intermédiaire fermée, avec une bonne isolation phonique, serait présente pour écouter un documentaire auditif en boucle, accumulant les rencontres et dialogues enregistrés entre moi et les personnes malvoyantes. On retrouverait sous la forme audible certains passages que l'on aurait vus au préalable écrits en légende sous les photographies. Enfin, la déambulation se terminerait sur une pièce présentant les portraits studio. Le visiteur aura face à lui des malvoyants qui le regardent et un autoportrait enfin de la déambulation de moi avec le même cadrage mais les yeux fermés pour en quelque sorte inviter à voir autrement. Deuxième sous-partie, sous la forme d'un livre. En imaginant le projet sous la forme d'un livre, je donnerai une place au texte peut-être plus importante que dans l'exposition. Au lieu de segmenter en quatre parties distinctes thématiques comme dans l'exposition, le livre se composerait plus comme une série de rencontres où seraient mélangées mes photographies avec celles des malvoyants. Toutefois, les portraits studio seraient tout de même séparés et clôtureraient en une série finale le livre, comme dans l'exposition. Troisième sous-partie. Autre médium et support possible pour ce projet. J'ai évoqué le documentaire auditif dans la partie exposition. Je compte bien enregistrer mes rencontres et dialogues avec les malvoyants qui participeront au projet et j'imagine naturellement un support auditif. Qu'il soit d'un seul bloc, segmenté en parties thématiques ou par personne rencontrée, j'estime que la volonté de rendre compte aussi autrement que visuellement ce projet me tient à cœur et principalement pour la raison que les malvoyants ne soient pas exclus de la mise en forme du projet. On peut imaginer un système d'audio guide, une application ou un scanner de QR code sur les photos pour faire apparaître le contenu audio, texte, braille. Idéalement, un livre qui allierait une technique de bas-relief avec un support tactile pour traduire les photographies et du braille pour la partie texte serait à imaginer également. Enfin, une mise en forme de type web documentaire n'est pas exclue. Cela permet aussi une accessibilité supplémentaire en donnant une place assez importante à l'audio et aussi à l'hors-champ du projet en montrant des étapes de la fabrication, des brouillons, des essais. Septième et dernière partie, réflexion sur le but du projet. Dans un premier temps, je pense qu'un projet artistique n'a aucun but, sinon on parle d'artisanat, de média et non d'art. Je pense que la réalisation d'une publicité ou d'une couverture de magazine emprunte et s'inspire des œuvres d'art pour vendre un produit, une tendance, une idée. Ici, je n'ai ni la volonté ni la prétention de vendre quelque chose. Cependant, je ne nie pas les répercussions que peuvent provoquer une œuvre pour le public et que je cherche à provoquer ici. Dans une première lecture directe du projet, on peut remarquer qu'il y a la volonté de mettre en avant des personnes malvoyantes. Ainsi, c'est participer à une vulgarisation et une lutte des stéréotypes qui existent autour des personnes à déficience visuelle qui se jouent dans ce projet. Mais il n'y a pas une volonté de faire de la pédagogie ou d'instruire. Je cherche en premier lieu à faire éclore une réflexion sur la vision et le visible en général. Pour moi, le pouvoir de représentation qu'il y a autour de l'image et du visible prend une place démesurée dans notre société. On va diaboliser ou rendre tendance certaines postures. L'image fait office de preuve avec la vidéosurveillance. On vit dans une ère où l'on cherche la validation de notre apparence sur les réseaux sociaux avec les selfies. Lors d'un entretien d'embauche, on va rappeler que la première impression visuelle peut être décisive sur le choix d'un candidat. L'image, qu'elle soit fabriquée, présentée à nos yeux ou que ce soit celle que nous créons de nous-mêmes et des autres est surpuissante. L'image, c'est avant tout du visible. Faire un projet où l'on donne l'illusion que des aveugles ou malvoyants nous regardent grâce au support photographique est une manière pour moi de poser la question du visible, de la représentation visuelle et de la perception trop rapide que l'on se fait de ce qui se présente devant nous. C'est une invitation à dépasser le visible, ici mise en doute, pour percevoir différemment. Confronter les voyants aux non-voyants en montrant la vacuité de la représentation du visible. C'était le projet photographique d'Antonin Mabille, Rendre visible, lu par lui-même. Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à l'écoute de ce projet et vous invite à me contacter si vous voulez en faire part ou avez des remarques. Bien à vous. Le projet est protégé par l'association Scam Velasquez Click Dépôt, ayant pour numéro de dépôt A1902 1055 00.